Sandra, Céline, bonjour.
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 Merci de m'accueillir dans votre hôtel-restaurant, l'Hôtel Bélier, qui est également un salon de thé et qui se situe à la Chapelle en Vercors. Cet hôtel-restaurant est dans votre famille depuis 5 générations, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc ça fait 5 générations. Donc mes deux sœurs et moi-même, nous sommes venus aider notre maman qui tient l'hôtel depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc c'est un établissement qui appartient à notre famille depuis notre arrière-grand-mère, donc à la fin des années 1800. Donc on a un hôtel-restaurant salon thé, donc très familial bien sûr. Et on est ouvert toute l'année. Donc pendant la saison estivale, donc de mai à septembre, on est ouvert en hôtel et restaurant et salon de thé. Et pendant la période hivernale, donc de novembre à avril, on ouvre donc la partie hôtel avec une ambiance plutôt chambre et table d'hôte. Donc on fait la restauration uniquement pour les clients de l'hôtel. Donc pour nous présenter un peu, notre maman Fabienne, elle est chef de cuisine, c'est elle qui prépare tous les plats chauds. Elle est secondée par Céline, qui prépare toutes les pâtisseries maison ainsi que les entrées. Donc notre petite sœur Sophie gère toute la partie hôtel. Et moi-même, je gère tout ce qui est réception et le service.
Depuis combien de temps vous travaillez ensemble ?
On travaille ensemble depuis 2009.
Mais depuis le début, vous aviez envisagé travailler dans cet établissement familial ?
Depuis qu'on...
De toute façon, depuis très jeune, on a commencé au moins l'été à travailler.
12-14 ans, on faisait les études.
À aider notre maman, c'était naturel pour nous, comme on habitait sur place et que... Le métier s'est imposé de façon...
On a pris le service sur le tas. Déjà. Et la cuisine, moi j'ai eu envie d'apprendre la pâtisserie, donc j'ai fait un BEP pâtisserie, 3e à la Chapelle. J'ai eu envie d'apprendre la pâtisserie, donc j'ai fait un BEP, pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie, donc au Clos d'Or à Grenoble. Et donc depuis, je fais les pâtisseries donc à l'hôtel. J'amène ma signature... J'ai la liberté de m'exprimer dans les pâtisseries. Donc les desserts, nous en faisons beaucoup à base de glace. Desserts glacés, donc des vacherins, par exemple, avec du sorbet banane, des meringues, de la chantilly maison et du coulis de framboise. Ou nous pouvons aussi faire une cachotterie, par exemple. Cachotterie à l'abricot avec des brisures de framboise et un cœur de meringue. Nos glaces maison donc, sont faites à partir d'œufs bio, du lait de la ferme, donc principalement de Sébastien Revol à la cime du mât, ce qui apporte une onctuosité à la glace qu'on n'avait pas il y a de nombreuses années quand nous le faisions encore avec du lait industriel. On trouve que les œufs bio et le lait amènent vraiment quelque chose à la glace. Nous faisons des glaces aux plantes, donc menthe, marjolaine et agastache, donc qui poussent dans le jardin, au bord de la piscine, à filtration naturelle. Nous faisons glaces donc vanille, marron, praliné, le miel, donc avec le miel de la Chapelle, de la miellerie Cécile Jaouen, chocolat zeste d'orange, mocha, citron, et au niveau des sorbets. Nous prenons donc principalement les fruits de saison. Nous faisons aussi du sorbet clairette sur une base de melon.
La particularité de l'hôtel-restaurant, il me semble, c'est aussi la possibilité d'offrir une petite piscine, c'est ça ?
Donc c'est un bassin à filtration naturelle qu'on a créé en 2007 sur la base de l'ancienne piscine. On avait déjà donc le trou qui était creusé. On l'a agrandi et donc on a fait cette piscine biologique, si on peut dire, parce que ma maman est assez portée sur l'écologie et donc ça nous suit. Donc on a créé cette piscine en un seul bassin, On a l'espace de baignade et l'espace où vive la faune et où il y a les plantes, donc qui aident à équilibrer l'eau. On a un système de filtration comme une piscine traditionnelle avec des skimmers qui avalent la surface de l'eau, filtrée dans un géotextile et recrachée donc l'eau propre par un drain de 50 mètres qui est caché sous les galets qui se trouvent autour du bassin. Et donc tout le monde peut s'y baigner, autant les gens de l'hôtel, du restaurant ou du salon de thé, à partir du moment donc, où ils sont clients. Et donc au niveau de la clientèle du salon de thé, donc, le salon de thé est ouvert à partir de 15h jusqu'à 18h. Voilà, on y propose donc des glaces maison, des desserts maison bien sûr, et des petits encas salés, des grosses salades, des soupes pour ceux qui le souhaitent.
Oui. Des assiettes de charcuterie,
fromage, assiettes complètes. Voilà, pour ceux qui préfèrent le salé, qui veulent se baigner ou tout simplement prendre un petit peu de temps au soleil, sur la pelouse, sur nos matelas.
Après, au niveau des plats, on essaye de proposer des plats végétariens. J'ai fait des variantes sur les bases de recettes de mes grands-parents et de mes parents. Justement, sans gluten, parce qu'actuellement, c'est un gros problème. Sans lactose, je n'y arrive encore pas, mais on a des plats sans lactose quand même. Donc, ça permet... Personne qui arrive à l'improviste de se dire bah là si je vais trouver mon bonheur pour manger malgré mon régime quoi. Donc ça je pense que c'est important parce que on y va de plus en plus hein, dans ce sens-là. Voilà. Après notre rêve c'est d'en faire encore un peu plus mais on peut pas. On a que deux bras, on rêve de faire le pain. La Céline chaque année dit oh, quand même si on pouvait faire le pain, les croissants, bon on ne peut pas. Et on peut pas avoir non plus tout en bio. Parce que pas financièrement, on ne tiendrait pas. Et puis parce qu'il y a des choses qui ne se travaillent pas du tout de la même façon. Donc il faut le temps de trouver, bien connaître les produits pour arriver à faire des recettes autour.
Comme quoi, par exemple, le sucre.
Le sucre principalement. Donc là, je vais essayer prochainement de faire de la glace au fructose, voir s'il y a un gros écart dans la quantité déjà qu'on utilise et puis un écart dans la saveur parce que quand on prend un sucre complet ça a souvent un goût un peu anisé par rapport à un sucre blanc raffiné qui a le goût de sucre dont on a l'habitude, l'autre n'a pas le même goût, il y a des personnes qui n'aiment pas. Et puis le sucre roux, s'il n'est pas complet, il a une texture, il est très cristal et il se dissout très difficilement. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne petit à petit. Faut que je me dépêche. La retraite. Voilà.
Et j'ai l'impression que cette donnée environnementale, écologique, biologique, elle est très très présente dans votre établissement, dans votre façon de cuisiner.
Eh bien, je dirais que j'ai trouvé vraiment ma place à partir du moment où je l'ai intégrée côté client. Parce que moi, c'est ancré depuis très très jeune. Je n'ai pas de souvenir. Mon éducation est certainement un peu dans ce sens-là. Parce que mes grands-parents avaient le respect de la nature, de la nourriture. Mais je sais que quand j'avais 18 ans, c'était pas en 68, sinon j'aurais... Certainement, je serais allée faire garder des chèvres dans le Larzac, mais je pense que j'ai ça à l'intérieur. Et tant que je ne pouvais pas, parce que je ne me sentais pas le courage pour ne pas trahir ma lignée derrière, quand je ne pouvais pas le passer côté client, j'étais pas bien. Puis arrive un moment, j'ai dit bon, ben, maintenant les gens pensent ce qu'ils veulent, c'est urgent de faire quelque chose pour la planète. Donc, on a essayé par tous les moyens, donc réduire au niveau des lessives, pas plus de serviettes en papier à part pour les petits déjeuners, les doubles de factures, c'était sur du papier brouillon, enfin des petites choses, les panneaux solaires, bon, les ampoules Econotone, ça fait 15 ans que j'en ai, la façade on l'a fait isoler en matériaux écologiques, mais écologique vraiment, c'est pas ce qu'ils appellent... C'est un projeté d'argile et de chaux, donc qui a le label écologique. Et même au niveau du linge, je tiens beaucoup au coton plutôt qu'au synthétique, parce que ça se si ça se recycle pas, ça pollue moins de toute façon à la fabrication. Voilà.
Et vous arrivez à le transmettre dans le discours au client?
Oui, on a des bibliothèques adéquates, des magazines, et puis je pense rien que le bassin fait réfléchir beaucoup.
Oui.
Les gens qui disent « mais qu'est-ce que c'est que cette mare ?» On sait qu'on ne les reverra pas. C'est des personnes à qui ça ne plaît pas, l'herbe qui est trop haute, il y a trop de mauvaises herbes, donc ça ne fait plus partie de ce qu'il y avait il y a 30 ans. C'était un jardin très carré. Par contre, on a les autres. Et ceux-là nous conviennent beaucoup mieux au niveau de la clientèle. L'accueil, etc., c'est autre chose. Des gens qui aiment la nature et qui, du coup, se sentent bien ici.
On est connu en tant qu'hôtel, donc ça ne concerne pas les gens aux alentours. On est moins connu au niveau du salon de thé. Et au niveau restaurant, on a gardé une image très traditionnelle, alors que depuis quelques temps, on essaye justement de diversifier la carte pour proposer des formules plus simples et justement plus adaptées en fait, aux clients du coin qui n'ont pas forcément envie de passer 2 heures au restaurant, mais juste voilà, passer un bon moment entre amis, en famille ou en couple en fait.
Et alors, comment on peut résumer, du coup, comment vous pouvez qualifier votre cuisine?
Elle reste traditionnelle, mais on avait la réputation, bon, c'était pas que la réputation, on a, du temps de mon grand-père, je sais pas, c'est dans les années 70, on a eu une Astérix au Michelin, à ne jamais renouveler.
Ah oui?
C'est un haut de gamme qui ne nous correspond pas, ni à mes filles, ni à moi, Moi, quand j'étais adolescente et que je faisais le service, j'étais mon petite jupe noire, chemisier blanc, je n'étais pas à l'aise du tout avec la clientèle. Parce que c'était, c'était du haut de gamme. Et par rapport à nos collègues du canton, on avait des prix chers. Et ça nous colle encore un petit peu au basque. Alors qu'au niveau des tarifs, je ne dis pas qu'on est moins cher que les autres, mais on est bien équivalent et parfois en dessous. Donc... qu'on arrive à se détacher de ce côté chic de l'hôtel Bélier pour prendre le côté nature de l'hôtel Bélier. Et ça viendra. Il y a ceux qui ont la nostalgie de ce qu'ils mangeaient. Pourtant, j'ai gardé un peu la même ligne de recettes, mais des choses comme le poulet aux écrevisses, je n'en fais plus parce que trouver des écrevisses fraîches qui ne meurent pas pendant le trajet... C'est très difficile, donc il y a beaucoup de pertes. Ça, on nous en parle encore, du poulet aux écrevisses. Le poulet au mori, je le fais toujours. Bon, après, c'est vraiment les écrevisses. La truite bélier, je la fais toujours. Le gratin dauphinois, je le fais toujours. Le pintado aussi. Le poulet au mori aussi. Donc, à part les écrevisses, vraiment, que je ne fais qu'occasionnellement quand j'ai... Une opportunité de trouver de la bonne écrevisse, mais pas des queues, des entières vivantes. Quoi. Donc,
vous avez parlé de la truite bélier. C'est quoi la truite bélier?
Alors ça, la petite histoire dit que mon grand-père a imaginé cette recette en allant à la pêche. Il avait mis le vin à tremper dans la rivière pour qu'il soit au frais. Et en écrasant de la menthe sauvage, il a dit, bah, tiens, on pourrait marier les deux. Bon, ça, c'est la petite histoire, vraie ou pas vraie, je ne sais pas. Et au fil des ans, mon père ayant commencé à travailler quand il avait 15 ans, ils ont élaboré ensemble, modifié la recette jusqu'à l'amener à ce qu'on fait encore actuellement, avec plus ou moins de force sur le vin ou de force sur la menthe, tout dépend... Mon grand-père était plus fort en menthe, mon père plus fort en crème fraîche. Voilà. Donc après, moi, c'est au palais, parce que je n'ai pas eu vraiment l'occasion, je n'ai pas pratiqué avec eux. Je n'étais pas du tout dans le métier. Enfin, si, j'étais dans l'hôtellerie, pas du tout dans la cuisine.
Ah oui.
Non, j'étais nulle en cuisine. Je savais à peine cuire du riz. Et j'ai appris en 3 ans, à partir du moment où j'ai repris ici... Je me suis dit qu'il fallait impérativement que je fasse la cuisine parce que trouver un cuisinier, C'était et avoir une continuité dans les recettes d'une année sur l'autre, c'est quand même très difficile. Donc il fallait que ce soit moi. Et puis alors maintenant, j'adore.
Maintenant, et alors c'était quand ça ?
97. Donc pendant les trois premières années, j'avais un commis qui refaisait les recettes de mon père. En 97, c'est moi qui ai appris à les faire. Et puis c'était dur parce que j'avais eu très très peu de temps pour apprendre avec mon père, qui lui repartait sur Val d'Isère. Bon, j'avais tout noté sur mon petit cahier. Et puis allô papa, j'ai tout brûlé, comment je fais ? Puis maintenant, je fais comme Céline, je fais selon les opportunités, selon l'envie aussi. Parce que, bon, il y a des recettes, on est obligé de les faire, même si on n'a pas envie de les faire ce jour-là. Mais disons que dans la mesure du possible, quand on peut, notamment avec les pensionnaires, c'est une chance inouïe de pouvoir faire ce qu'on a envie. Et moi, je sais que j'ai énormément de plaisir à travailler. Que ce soit en cuisine, que ce soit au jardin ou l'accueil. Bon, là, l'hiver, on fait des travaux. Céline devient une pro de la truelle et du tournevis. Sandra va s'y mettre aussi prochainement, mais c'est peut-être plus l'électricité qui va la enthousiasmer. Voilà. Sophie a découvert aussi les joies du bricolage. Et en plus, l'hiver, comme on a peu de monde, ça permet aussi puis de varier, de ne pas faire toujours la même chose. En fait, un coup on fait de la cuisine, un coup on fait de la couture, un coup on va au... Et ça, c'est chouette.
C'est vraiment une affaire de femme, en fait, finalement.
Oui. Ouais. Six petites filles, trois filles, il y a quand même des gendres. Hein. Et ma mère, qui est veuve, et moi divorcée, donc effectivement, oui, c'est vraiment que des femmes.
Et votre maman, elle vous aide encore ?
Non. Encore que, elle vient bien faire le jardin. Elle a 80 et quelques années. Elle fatigue aussi, elle s'occupe beaucoup des petites filles.
Chemin de saveur sur Radio Royan, votre émission à la découverte des restaurants en Royan-Vercors.
Alors, glace menthe ou glace marjolaine ? La marjolaine, elle aura peut-être mieux résisté.
Allez, on va chercher de la marjolaine.
Marjolaine, elle a bien supporté la neige. Enfin, le grésil, c'est quand même pas vraiment de la neige. Voilà, donc là, j'ai de la consoude. Je m'en sers aussi pour faire des potages. La lampsane, ça, c'est de la plante sauvage. Ça pousse d'aventure, toutes ces petites feuilles-là.
Ça ?
Voilà, alors on est obligé de... Ça pousse très haut.
C'est quoi ?
La lampsane. On peut en faire en salade quand elles sont jeunes comme ça, en potage ou... J'ai lu quelque part qu'ils s'en servaient autrefois pour quand il n'y avait pas de persil pour faire les ravioles.
Ah, d'accord.
Pas d'herbe fine ou je ne sais plus. Ils mettaient ça à la place.
Les orties, vous utilisez les orties ?
Pour la soupe.
Ouais.
Ouais, oui.
Les
gens aiment beaucoup parce qu'ils ne connaissent pas. Et là, autour du bassin, on a aussi du thym. On avait ramassé en bord de route à Guy. Il a très, très bien pris. Et on a, il s'éparpille, il se ressème partout. Je pense que le bord du bassin leur convient très bien. Voilà, donc là, il y a de la menthe, de la lavande. Donc, il y a de quoi faire si je veux faire du potage et du romarin plus loin. Et de la gastache aussi, qui est une plante anisée. Qui a bien repris parce que bon, c'est quelquefois aléatoire, ça peut geler. Là, c'est cet hiver, il n'y a pas fait froid. Et on a des arbres fruitiers aussi. Donc les merises, bon, on les ramasse pas les cerises sauvages parce que c'est trop petit. Là, c'est des prunes qui sont très acides
et les pommiers, ce qui nous servent de réserve pour faire les compotes meringuées ou les salades aussi à l'automne. Ce marronnier, il a dû être planté à la reconstruction, parce que j'ai le souvenir d'avoir vu une photo où l'hôtel était juste fini, et mon grand-père tenant l'arbre haut comme ça, quoi, un mètre cinquante.
Et... Effectivement, là.
Ah oui.
Et il couvre toute la terrasse.
Ah, c'est un parasol fabuleux.
Merci.
Voilà, on a la marjolaine. Donc, il faut casser des œufs. C'est 8 œufs au litre pour un litre de lait. Parce que moi, pendant longtemps, quand mon papa me disait 8 œufs au litre, je ne savais pas litre de quoi. Voilà. Donc, 1 litre de lait, 8 jaunes. Donc, on sépare les blancs des jaunes. On va mettre les jaunes à blanchir au batteur. Donc, comme on n'utilise pas les blancs pour la glace, Céline les utilise pour les meringues. Allez, j'enfile.
Ça, c'est le batteur.
Le batteur,
t'as 30
ans.
Au
plus. Plus de 30 ans ?
Ah, certainement. Certainement, je pense que dans les machines, là, la machine à glace, à mon avis, elle date de... 1980. Et changer une machine, c'est prendre un gros risque. Parce que ce sont des machines qui sont performantes et super solides. Alors évidemment, quand il y a des pièces qu'on ne trouve plus, on n'a pas le choix. Mais c'est sûr que c'est le batteur, oui. Commence à montrer des signes de fatigue. Alors bon, petit à petit, on en prend un autre. Donc pendant que les jaunes tournent, on va mettre du lait à chauffer. Ça, c'est la soupe de poulet pour midi. Donc on fait bouillir le lait. Alors pour la marjolaine, je ne fais pas bouillir la marjolaine. Par contre, si je fais de la glace à la gastache, pralin, chocolat... Je le ferai bouillir ou en tout cas infuser dans le lait avant de mettre les jaunes.
D'accord.
Donc après, selon les parfums, oui, il y a une variante. La menthe, je ne la fais pas bouillir non plus parce que ça n'a pas le même goût. Quand ça devient une décoction, c'est plus une infusion. Donc je le mets à chaud, mais je le laisse infuser pendant généralement une nuit. Mais je ne le fais pas bouillir. Sucre, c'est un petit peu. Moi, j'en ai moitié dans le lait, moitié dans les jaunes, parce que le jaune qu'on va rajouter après dans le lait bouillant, pour que ça remonte en température, il faut pas qu'il y en ait. Moins il y a de volume, et plus vite ça remontera. Donc, si je mettais tout le jaune avec le sucre, ça fait beaucoup plus de volume dans le à remonter en température. J'ai les ustensiles pour le salé, les ustensiles pour le sucré.
Je suis un petit peu.
C'est pour ça qu'il y a autant de bazar, parce que je suis assez compliquée à ce niveau-là.
Qu'est-ce que ça change ?
Peut-être rien, mais c'est dans ma tête.
Ah d'accord.
Bah, je non. Bon les ouais. Je pense que je ne faire une sauce qui pimentée ou même une sauce de viande avec une cuillère qui me servira à faire du caramel ou pour moi, ça va pas.
Donc, bon, les passoires, c'est pareil. J'ai les passoires pour les légumes, la passoire pour quand, les truites ou les choses, les viandes. C'est dans la tête. Voilà. Donc après, on prend les jaunes qu'on va... On va verser délicatement du lait bouillant dans le jaune en remuant. Petit à petit. Et ensuite, on transvase tout le jaune dans le lait qu'on va remettre en température, à remonter. Alors, il ne faut pas que ça boue. Il faut que ce soit à la limite de l'ébullition. Donc, dès qu'on voit un petit bouillon, on retire vite et on continue de remuer. Par contre, il faut que ça reste assez longtemps à température... élevé. Donc pendant une dizaine de minutes, moi je vais faire cuire les jaunes petit à petit sans bouillir. En remuant toujours en 8. Pourquoi ? Je pense que c'est dans la cuisine, on apprend ça peut-être en pâtisserie, je sais pas. On m'a toujours dit de remuer en 8. Donc moi je remue en faisant des 8 avec ma cuillère. Voilà. Et donc quand la glace nappe sur la cuillère, quand on monte la crème sur la cuillère et qu'on tire avec le doigt et que ça ne coule pas, ça s'appelle napper, ça reste bien en nappe sur la cuillère, à ce moment-là, on peut considérer que la glace est cuite. Et ensuite, on va la transvaser dans un récipient pour la mettre à refroidir le plus vite possible. Mais en ayant pris soin de mettre la marjolaine dedans et de couvrir. Donc en faisant attention quand même que à partir du moment où on va mettre à refroidir, la température va aller au cœur du lait et donc va bouillir. Donc il faut y aller, pas couvrir tout de suite et puis bien remuer un temps avec la marjolaine pour que ça refroidisse suffisamment, sans descendre trop vite, et refroidir de quelques degrés pour pas que la température aille au centre et se mettre à faire bouillir. C'est impressionnant d'ailleurs que quand on débarrasse, on va mettre dans un récipient froid la glace et d'un coup on voit que ça se met à bouillir.
Ah oui.
Ouais. Le froid sur l'extérieur va faire rentrer et faire bouillir au centre. Voilà, et donc après on laisse à refroidir et à infuser, surtout pendant moi je le fais pendant une nuit, comme ça le matin j'ai plus de temps et puis il y a moins de monde aussi en terrasse, donc on peut se permettre de mettre à tourner la machine à glace. C'est quand même énormément de turbines à glace. C'est très bruyant et donc je sais que le matin, entre 10h et midi, j'ai l'opportunité de faire tourner les glaces. Bon, c'est une machine, il lui faut grosso modo une demi-heure pour faire un litre et demi, trois quarts d'heure.
On était passé à 15 minutes.
Oui. Bon. Tout dépend de la température extérieure. S'il fait chaud, elle va mettre plus longtemps pour arriver à refroidir la glace. Et en même temps, une glace, elle est de plus onctueuse. Plus on laisse tourner, plus elle va être onctueuse. Comme les jaunes qu'on va mettre dedans, plus ils ont tourné, plus la glace va être onctueuse, puisque ça fait rentrer l'air dedans. Et voilà.
Donc là, notre petite préparation, elle va infuser jusqu'à demain, c'est
voilà.
Ça.
Okay. Et demain, je la mettrai à la turbine.
Bon, donc je reviens demain pour déguster la glace. On
voilà.
Fait ça.
Pas chiche.
Oh, si, moi, je suis cap.
Il y en a la marjolaine. Allez, une glace marjolaine pour Rachel.
Waouh. Toute petite. C'est vraiment pour goûter.
C'est
10h30. Vraiment, c'est
10h30.
Ouais, ouais. Oh, elle est belle! Oh là là! Waouh! Bon, je garde le micro ouvert pour goûter. C'est incroyable comme on sent le parfum.
Et on peut s'en servir aussi dans la cuisine salée. Je fais du bois à la marjolaine.
Ah oui?
Une recette que moi j'ai toujours connue. Donc mon grand-père et mon père établissaient les menus sur environ 15 jours et les recettes revenaient régulièrement.
en variant les viandes pour pas qu'ils aient deux jours d'affilée du bœuf, etc. Puis c'était pension complète, midi et soir.
Ah oui.
Donc un peu compliqué. Et le voile à marjolaine, on le fait souvent avec la plante sèche. Et quand je fais avec de la fraîche, ça n'a rien à voir. C'est comme la menthe, on va faire avec quelque chose à la menthe, avec la menthe sèche, ça n'a pas du tout le goût de la menthe fraîche. Le persil, l'ail, tous les aromates ont des fonctions différentes selon s'ils sont secs ou... Ouais. Donc là, je suis contente qu'elle se plaise au jardin. J'ai mis du temps à avoir de la marjolaine au jardin, mais maintenant, elle a l'air bien s'y plaire. Voilà.
En tout cas, moi, elle me plaît bien, la glace à la marjolaine. Fabienne, Céline et Sandra, merci beaucoup.
Merci à toi. Ouais,
merci beaucoup, en tout cas, d'avoir consacré autant de temps à notre maison.
C'était un vrai plaisir.
Un plaisir partagé.
Merci, à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, à bientôt.